Léon Dierx, Les heures closes, préface. La préface d'un livre est le seul endroit où un poète puisse librement exprimer son sentiment sur la poésie. Pour ma faible part, je profite de l'occasion que j'ai, en publiant ce second volume de vers, pour exposer ici quelques considérations générales. Elles ne sont bien entendu nullement responsables des vers qui suivent. Mais dans un temps où la critique prétend à certains poètes les plus creuses épithètes érigées en doctrine, aime mieux se moquer d'un ridicule qu'elle invente gratuitement que d'étudier la poésie de tel ou tel, il n'est peut-être pas extraordinaire qu'un poète, quel qu'il soit, avoue son esthétique aussi hautement que les prosateurs quelconques se confèrent la sagesse et la juste appréciation d'un art que presque tous détestent. Outre les artistes dont la nature est de se passionner pour le beau et qui vivent dans l'admiration constante des créations multiples du génie et du talent, les arts ont leurs amateurs fervents, leurs enthousiastes désintéressés, leurs critiques sincèrement épris. La peinture a ses collectionneurs, amoureux, la musique a ses dilettanti, intrépides, la sculpture a ses contemplateurs, mais leur nombre est déjà plus restreint. L'amateur de poésie n'existe pas, à vrai dire. La critique est très rare qui parle d'un poète et de poésie avec un enthousiasme sincère, en dehors de quelques noms que la tradition recommande. La critique, à fort peu d'exceptions près, s'est habituée à prendre envers cet art, le plus grand de tous, un ton d'indifférence dédaigneuse, de protection grotesque ou de haine trop explicable, servie alors par la plus qualifiable des proses. Elle semble croire ou vouloir insinuer que la poésie est un vieux préjugé et que ce siècle, infatué de lui-même, est sur le point de le faire disparaître. L'expropriation des poètes, pour cause d'inutilité publique, voire de danger, est réclamée à grands cris de tous côtés. Si par malheur on compte dans toute société qui se respecte, dans toute rédaction qui veut être respectée, on prononce le nom de l'un des grands poètes du jour, on entend comme le battement d'ailes effarouchées des sauveurs habituels du Capitole en péril. Les vers gênent la circulation des intelligences. N'a-t-il pas été toujours un peu ainsi? Le progrès lui-même n'a pas beaucoup perfectionné l'horreur instinctive que l'art suprême est toujours inspiré. Depuis longtemps, il était d'usage, lorsqu'on publiait un livre de vers, de demander pardon dans la préface au public et aux critiques de ce béat XIXe siècle. Cette amende honorable, faite avec un douteux sourire d'humilité, confessait le péché dont on se rendait coupable et cherchait à établir des circonstances atténuantes pour excuser l'auteur de vouloir se glisser dans la foule. Il n'est rien de plus honteux, rien de plus efficace pour avilir l'art sacré, de jour en jour le plus méprisé. Le poète, quel qu'il soit, a le droit de plus hautement découvrir son visage. Qu'il se trompe souvent et s'exagère son mérite, cela est incontestable. Il suffit qu'il croie sincèrement à la majesté de l'art, pour ne pas donner l'affligeant spectacle de la muse se ravalant jusqu'à implorer la multitude indifférente. Toutes les autres branches de la littérature ont leurs présomptueux, comme la poésie. Aucun des auteurs de tant d'œuvres aussi informes, aussi avortées que les volumes de vers mornés, n'a encore songé à demander grâce au lecteur. Je ne parle pas des présomptueux de la critique, et pour cause. Le métier même qu'ils exercent périodiquement exige la risible et suprême présomption de tout savoir, de tout comprendre, de tout juger. De leur propre autorité, ils se sont déclarés et ils ne sont reconnus comme les arbitres souverains de l'art et du goût. Et chacun sait que toute la morale de ce glorieux XIXe siècle s'est uniquement réfugié chez ces bonnes femmes. Quelques-uns ont fait leurs preuves et sont justement écoutés. Mais pour un qui sait de quoi il parle, combien qui ne s'en doute pas, surtout en matière de poésie. Cette confiance en eux est sincère, je l'admets volontiers. Qu'on veuille donc concéder aux poètes le droit d'être ce qu'ils sont, sans fausse honte. Tout vrai poète ou tout homme qui, se croyant tel, a le culte et le respect de l'art, s'indigne avec raison contre ces tristes préfaces. Les apôtres de l'art, le plus noble, le plus élevé, le plus complet qui soit, ne doivent pas, quel que soit d'ailleurs leur talent, l'abaisser ainsi volontairement devant la torpeur et l'incompréhension générale, ces lourdes filles de l'indifférence, pas plus que devant les soi-disant juges à qui la paresse confère l'infaillibilité. Ces humiliations sans excuse n'ont pas peu contribué, je pense, à faire prendre les poètes en mépris par la foule ainsi sollicitée. Grâce aux dieux, elles commencent à cesser. L'orgueil des poètes, cela est proverbial. En vérité, si l'on savait quelle force ont toujours eu les phrases toutes faites dans ce bon pays de France, on s'étonnerait de ne pas voir les poètes décliner plus souvent cet orgueil devant la vanité sans gêne des critiques. Ces derniers pullulent dans ces temps. Les mauvaises théories, les lourdes analyses, les faux systèmes encombrent et obstruent la voie intellectuelle encore plus que les mauvais vers. Les recueils de critiques émergent aux vitrines des librairies, plus innombrables encore que ceux de poésie. Ils sont critiqués eux-mêmes, et ces critiques de critiques sont aussi réunis en volume pour être ensuite critiqués à leur tour. Chaque jour, un critique découvre que la poésie est morte. Croque-mort jovial ou mélancolique, il conduit le deuil des vivants. Il faut espérer que les poètes finiront par croire ces lugubres avertisseurs. Ils s'apercevront bien à la fin que le pouls de l'art ne bat plus, et ils cesseront alors de tenter l'escalade de ces temples en ruine. C'est justement la trop grande humilité des poètes qui a ainsi gonflé outre mesure la vanité de la critique. Et celle-ci, arrêtant partout la foule stupéfiée, lui a peu à peu inspiré la haine de l'art et du beau en poésie. La poésie, dans l'esprit de ceux qui appellent réciproquement leurs plumes des plumes autorisées, est tombée en un tel discrédit que l'indifférence générale lui est imputée comme preuve de stérilité et qu'elle leur semble morte en raison même de leur incompréhensivité. La mort de la poésie est un de ces thèmes déjà vieillots, trop faciles à répéter pour être d'aussitôt abandonnés. C'est une de ces admirables matières à mettre en prose française, aussi usée que l'apothéose du progrès, mais qui a la vie aussi dure. Il semble que l'affirmation incessante de ce décès fictif soit nécessaire à la glorification de la grande fatuité moderne. Quand les critiques ont à parler des salons de peinture, immuable est le résumé de leur mauvaise humeur. Le voici. Les artistes aujourd'hui ne se préoccupent que des marchands et des goûts grossiers de la foule. Du grand art, personne ne se soucie. Oh, le grand art, nous le comprenons si bien, nous, mais on ne veut pas nous écouter. Et ces mêmes critiques, parlant de poésie, ont pour tremplin à leur indignation le reproche exactement contraire. L'art pour l'art, quelle folie, quelle sottise, quel ennui, pas le moindre souci des goûts grossiers de la multitude, pas de modernité. Mais ce qu'il nous faut à nous, c'est de l'art sans art. Or, la poésie est un art comme la peinture, un art plus élevé encore, plus complet de son essence. Pour tous les arts, le plus légitime début, c'est le beau, dans ses manifestations multiples. Avant tout, l'art doit initier au beau, non traduire l'idéal des masses. D'où vient donc que les critiques déplacent ainsi le but, suivant qu'ils parlent de leur peinture ou de la poésie? Est-ce là seulement un manque de la plus élémentaire logique, ou le parti pris de demander toujours aux artistes autre chose que ce qu'ils font? La critique se complète à parler de morale à propos de vers, de vérité, de vertu civique, à propos de rime et de rythme, de progrès, de passion, de modernité, à propos de poèmes. Ce qu'elle entend par sincérité est incompréhensible. Ce qu'elle appelle des idées est surtout inexplicable. Car les plus grands poètes de ce temps sont accusés de n'en pas avoir. Elle réclame un grand cri du cœur humain. Le poète le plus humain pour elle, maintenant, répondait de son vivant, eux-mêmes demandent par ce vers. Le cœur humain, de qui? Le cœur humain, de quoi? La critique a imaginé de faire croire au public qu'il y avait des poètes possédant la forme, mais dénués d'idées, ayant le rythme, mais pas le sentiment. Et mille articles boutonniers répètent sans cesse cette ineptie, sans savoir au juste ce que cela veut dire. Or, ces poètes sont les premiers à déclarer qu'ils ne comprennent rien à ce jargon. Nul ne sait ce que ce peut être qu'une belle forme vide de sens. Ils pensent seulement que toute passion, toute idée, toute poésie ne sont pas uniquement dans le débraillé sentimental, dans le négligé de la langue, dans les confessions directes en rimes à peu près insuffisantes. Enfin, les critiques terminent volontiers leur sermon en donnant aux poètes, j'entends les plus illustres, des conseils pour mériter ce beau titre, en leur indiquant des recettes pour se mieux conduire dans le monde. Les poètes auraient bien le droit de s'irriter de cette esthétique grotesque, aussi bien que de cet idéal de moraliste, que, pour la plupart, les critiques se sont forgées, on ne sait par quelle perversité de goût. Mais ils se contentent de rire de ce verbiage indigeste, et rien n'égale l'inanité de ces doctrines inintelligentes, si ce n'est l'indifférence absolue des artistes ainsi admonestés. Que la foule comprenne et écoute, ou qu'elle se tourne ailleurs, qu'importe. Le vrai poète marche devant elle, et cela lui suffit. Le public se fait de jour en jour plus rare autour des poètes de ce temps-ci. Cela est évident. C'est qu'il n'y a plus de vrai poète, crie à l'envi les critiques. Et la foule, qui ne lit plus guère que ce dernier, a fini par le croire. Elle se croit même capable d'apprécier la véritable poésie. Malheureusement, ce mot « véritable poésie » est une locution indéfinissable dans sa bouche, une énigme indéchiffrable sous la plume des sphinx périodiques. À force d'être proposée à la poésie comme le but souverain à faire tressaillir, la foule, dis-je, n'est pas très éloignée de penser qu'elle tressaillerait si un vrai poète surgissait, un nouveau Béranger par exemple. Hélas, le chansonnier a emporté le secret de chatouiller agréablement le délicat épiderme des jeunes Français. Mais les grands et vénérés poètes de 1830 sont des poètes, au dire même de la critique actuelle, qui n'ose plus les contester. Eh bien, qui, sauf les poètes, les lit donc aujourd'hui, ces vrais pères de la poésie française? Notre génération ne les connaît que de nom, et encore. Leurs œuvres, sauf deux ou trois citations obligées, sont presque aussi totalement ignorées que celles des maîtres plus récents. Chacun de ces derniers est grand poète aussi, et artiste dans la plus glorieuse acception du mot, et doué d'une puissante originalité. Ils inspirent aux nouveaux venus un enthousiasme qui se condense sur l'un ou sur l'autre, suivant les tempéraments. Une fois faite la part d'influence que la poésie française devra longtemps encore à l'immortel et exceptionnel génie qui nous a donné la légende des siècles, il ne ressemble en rien à leurs devanciers. La critique devra les en louer, et elle les en blâme au contraire. La critique actuelle perd son temps à leur reprocher l'insouciance de la foule. Comme jadis, elle a perdu son encre à avertir les romantiques de 1830. Les poètes seuls font et ont toujours fait presque tout le public intelligent des poètes. Seuls ils choisissent et proclament les maîtres avant la critique. Le plus illustre des critiques de ce temps a été un grand poète aussi à son heure. Combien a-t-il après? Monsieur Sainte-Beuve, qui sache parler poésie à propos d'un poète? L'idéal du vrai poète a été et sera toujours le contraire de celui du public. Et il n'est point vrai que cet idéal doive être la quintessence des sentiments et des aspirations de son époque, exclusivement. En vérité, ce serait peu de chose. Rien de plus étroit et de moins fécond que ce système. Le cercle des visions internes du poète a le droit de rayonner librement dans tous les temps. Le passé a le droit de refluer vers lui et de faire émerger de son cerveau les luttes, les aspirations, les croyances, les mœurs, les religions, les souffrances, les paysages de tous les peuples, de toutes les époques, de tous les pays. Si l'on voulait bien rentrer en soi-même et réfléchir sur ce mot « poésie », on reconnaîtrait que ce mot renferme justement le sens d'un soulèvement de l'âme, de l'esprit, de l'imagination, en deçà ou au-delà, mais hors du milieu subi. Et il n'est pas de nature si étrangère qu'elle soit à toute manifestation poétique qui n'attache instinctivement et fatalement à ce mot « passé » une vague et éternelle idée de poésie. Le poète n'a d'autre devoir que de rendre sincèrement, suivant ses forces, selon sa perception particulière du mot, au gré de sa philosophie du moment, les obsessions de son cerveau, les créations de son caprice, comme ses sentiments propres. Pas plus que jadis, il n'a à se préoccuper des tendances actuelles, si elles ne lui plaisent pas, car il ne contemple que la beauté éternelle vers laquelle il aspire sans cesse. Sous peine de déchéance, il ne doit pas faire aux intérêts de son temps des concessions équivoques, ni des sacrifices aux idoles du jour. La poésie n'a pas d'autre but que la poésie. Tout poème, toute conception poétique, qui voulant prouver quoi que ce soit, ne tend pas uniquement vers le beau, a peu de chance de l'atteindre. Un beau poème peut contenir un enseignement moral. Mais alors, ce poème est beau, malgré cet enseignement, et non pas à cause de lui. La poésie ne se définit pas. Ce résultat immédiat est d'enlever l'âme du lecteur par une secousse plus ou moins violente, hors du milieu terrestre, à l'aide d'un langage choisi, d'un rythme particulier, de la rime, des images, tout aussi bien que par les sentiments, la passion, la pensée, la description ou la fantaisie, le tout baigné d'une harmonie générale. Plus ces diverses manifestations sensibles du mot poétique, forme, langue, image, rime et rythme, seront richement et savamment revêtues, plus elles communiqueront aux pensées, aux sentiments, aux impressions, le sortilège de cet enlèvement de l'âme qui est l'unique gloire de la poésie et dont l'effet par lui-même est essentiellement moral. Si en même temps la conception est calculée, pondérée, voulue, pour produire cet enlèvement de la matière, elle est la plus efficace par la concentration ou le développement, l'œuvre sera parfaite. Le public répète à satiété, pour se dispenser de toute lecture, certains vers à tournure proverbiale, contenant une vérité banale, irrécusable, une maxime de morale, une sentence quelconque. Et il est disposé à croire que c'est là ce qu'on nomme les idées en poésie. Mais ces formules, la vérité est que n'ont jamais moralisé personne. Et en poésie, elles ont le tort irréparable de n'être pas de la poésie. Un certain nombre d'idées générales, de sentiments et de passions ont toujours fait et feront toujours le front commun de la poésie, comme du théâtre, comme du roman, comme de la critique elle-même. Ce sont les impressions qui varient et renouvellent en le fécondant le champ restreint des sentiments. Il faudra entendre par idée, en poésie, l'accord parfait, harmonieux, voulu de l'expression et de l'impression, le rapport exact des images et des sentiments. L'imagination n'est pas soulevée vers la poésie par l'idée en elle-même, mais par l'entente, la coordination, la succession logique de ses images, de ses sentiments, de ses impressions, le tout plus ou moins revêtu de couleurs choisies, et aussi par la forme et la science du style, par la cadence du rythme, par la musique de la rime. C'est à travers ses auxiliaires sensibles qu'elle perçoit la beauté invisible et voit s'ouvrir devant elle les portes splendides des rêveries supérieures. Et encore une fois, c'est uniquement dans ce ravissement de l'âme vers un monde plus élevé qu'il faut chercher l'action moralisatrice de la poésie. Le tempérament du poète varie. Il est passionné, satirique, fantaisiste, élégiaque, gracieux, sombre, grandiose ou terrible. Il est personnel ou impersonnel, antique ou moderne. Il est sobre ou coloriste, suivant sa nature ou son caprice. Il est tout cela à la fois quand il est grand poète. Et si ce siècle n'avait pas la manie de vouloir tout spécialiser, il reconnaîtrait que les grands poètes de ce temps sont presque tous ces côtés multiples. Chacun possède l'une ou l'autre de ses qualités, ou plusieurs, ou d'autres encore. Il les perfectionne suivant ses forces. L'analyse de la critique ne doit porter que sur la plus ou moins grande dose de poésie que contient l'œuvre qu'on livre au public. On ne peut raisonnablement la juger que sur les forces du poète, sur ses efforts ou ses défaillances, dans le sens qu'il a choisi ou qu'il suit par nature, sur son plus ou moins d'originalité. Il est ridicule et injuste de lui reprocher de n'avoir pas les qualités ou les défauts d'un confrère qui marche dans une autre voie. Ceci me plaît ou me déplaît, c'est tout ce que le critique peut dire, ou bien ceci est bon ou mauvais. Son rôle doit se borner à constater les tendances des artistes. Leur indiquer de nouvelles routes est une présomption gratuite de sa part. Sans cette diversité, qui ne voit que tous les poètes se ressembleraient? Et le néant, c'est ce qu'il serait, s'il s'abaissait à se modeler sur le type grotesque et chimérique que la majorité des dédicateurs, sans brevet, continuent à leur présenter comme leur idéal. Le poète est surtout admirable quand il est partout et toujours maître de lui et de son instrument, au point de ne jamais perdre l'impeccabilité souveraine de l'artiste. Par-dessus tout, la poésie a le sentiment de la nature. Les arguments de la critique contre la poésie moderne sont le manque d'idées, le souci pervers et exclusif de la forme, l'absence de préoccupations morales, le dédain des tendances actuelles, l'étude du passé, etc. Elle rappelle à l'élégie pure ce qui possède cette impeccabilité artistique au plus haut point et qui, à travers leur sérénité objective, nous ont ouvert le monde nouveau du grandiose. Ce qui font revivre avec un génie suprême et calme les civilisations éteintes, les religions mortes, les philosophies antiques et barbares, et les encadre dans ce tableau splendide des paysages perdus, magnifiquement recomposés ou devinés merveilleusement. Si je me suis fait bien comprendre dans ce qui précède, on reconnaîtra avec moi que ces reproches n'ont pas de sens. D'ailleurs, le poète aura beau faire, son œuvre portera toujours l'empreinte fatale de son siècle, et ceux qui savent lire retrouvent dans les œuvres les plus accusées d'insensibilité la trace des angoisses contemporaines et du sentiment si cher à la critique. Seulement, ce sentiment leur est particulier et ne ressemble en rien aux lamentations banales admirées du public. Ces morceaux, pour sembler rares, n'en sont que plus saisissants et la concentration leur donne une force terrible. Tout ami sincère de la poésie et qui a lu les œuvres des maîtres actuels c'est bien que sous une forme parfaite, exquise, suprêmement originale, les richesses poétiques, les pensées, les impressions, les images, les sentiments, les conceptions surabondent dans ces chefs-d'œuvre qui ont pour titre les poèmes antiques, les poèmes barbares, la comédie de la mort, Albertus, les ébaux et camées, les fleurs du mal, les cariatides, les zones funambulesques, etc. Chacun de ces maîtres, à part toute question oiseuse de préférence, nous a révélé un nouveau monde dans la sphère de sa vision particulière du beau. Pour ne pas refaire ce que faisaient les grands réformateurs de 1830, ce n'en sont pas moins des poètes de génie et de talent aussi. Ils ont moins d'influence sur le public parce qu'ils sont plus artistes et que leur esthétique est plus pure. Je sais bien qu'une certaine classe de critiques affecte à un grand renfort de phrases grossières de professer que depuis Hugo, tous les poètes d'aujourd'hui le répètent en l'avilissant. Mais ces reproches sont si puérils et dénotent une telle myopie littéraire qu'il n'est pas besoin de les réfuter longuement. Aucun poète, en effet, ne s'est encore créé tout d'une pièce. Et depuis la nuit des temps, chacun a toujours relevé d'un ou de plusieurs devanciers. Mais il faut être aveugle pour nier ce qui appartient en propre au maître moderne, ce qui est leur originalité, ce qui fait enfin ce que l'on reprochera. Cela a déjà commencé au nouveau groupe de poètes plus jeunes de les imiter à leur tour. Cela sera ainsi jusqu'à la fin des siècles. Si donc, malgré de tels maîtres, malgré de telles œuvres, dont quelques-unes sont récentes, le public s'est retiré des poètes, c'est que son goût actuel n'est pas la poésie. Ce ne sont pas les vrais poètes ni les poèmes admirables qui manquent à son appétit. C'est cet appétit même qui fait défaut. Encore une fois, c'est l'affaire de la foule de chercher ses aliments intellectuels là où son palais capricieux trouve sa jouissance. Ce n'est pas au poète à la consulter quand elle est rassasiée, ni à flatter ses instincts pour la ramener à eux quand elle s'est tout à fait détournée. Encore moins doivent-ils descendre à lui reprocher son indifférence. L'art ne peut que gagner à cette fierté native, car son action s'exercera plus librement sur les vrais amis de la poésie, ce luxe intellectuel dont le sens a toujours été rare en France. On sait l'histoire de la jument de Roland, qui avait toutes les qualités et le seul défaut d'être morte depuis longtemps. Bon nombre de critiques disent sans cesse « La poésie moderne a tous les défauts de la stérilité, mais rassurez-vous, peuple, depuis longtemps elle est morte. » Et la preuve, devrait-il ajouter, c'est que nous-mêmes nous avons cru en elle autrefois et que nous n'avons pas vu la galvaniser, tant nos propres vers étaient mauvais. Mais si la poésie était morte, comme depuis longtemps il l'assure, il n'aurait pas besoin de le répéter si souvent. La raison funèbre une fois prononcée, les morts ont coutume de dormir en paix. Il est inutile de faire tant d'efforts pour se rassurer soi-même et pour tranquilliser les populations. Les actes de décès ne servent qu'une fois d'ordinaire. Il ne faut pas avoir l'air de craindre aussi les revenants. Le sentiment passionné de l'art et de la poésie vit encore dans plus d'esprit que la critique ne le croit. Les œuvres bonnes et mauvaises n'ont pas cessé de prouver les efforts sincères, sinon le talent, à chaque fois. Si peu d'entre elles méritent le beau nom de poésie, cela prouve seulement que le génie et le talent ont toujours été rares. Si toutes ne sont pas originales du premier coup, cela tient à la fatalité de notre époque tardive, et cela tient surtout à la richesse même de nos illustres que l'art a sacré dans ce temps si accusé de stérilité. Sans doute, il est agréable à la critique de se proclamer seule vivante de nos jours. Mais si elle existe encore, c'est que tout n'est pas mort autour d'elle, puisque les créations des artistes, bons ou mauvais, sont le seul prétexte qu'elle ait de vivre. Et si les clairons d'or des grands poètes de ce temps retentissent vainement depuis bien des années autour des Géricault modernes, c'est qu'en vérité, il n'y a plus personne derrière les murailles. Léon Dierks.